Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Quid de la liberté en ces temps où la vie, où l'on a des vies, pardon, en partie confinées, revient comme une interrogation récurrente la question de la liberté. Liberté chérie par tous, mais défendue avec plus ou moins d'ardeur. La liberté, c'est peut-être le fil rouge des sujets de votre émission Vivante Église de ce mois, émission d'actualité. Une liberté d'expression défendue au péril de sa vie par Alexandre Navalny, cet opposant politique numéro 1, dit-on, de Vladimir Poutine. Liberté de culte versus liberté républicaine pour le récent projet de loi confortant les principes de la République, soit la loi sur les séparatismes et liberté de procréer à propos des révisions des lois de bioéthique. Bref, une liberté dans tous ses états. Le grand débat, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. En ce vendredi, votre émission d'actualité, les chroniqueurs de ce mois-ci, Daniel Cabanis, professeur d'émérite d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole et chroniqueuse à cette antenne, qui ne va pas tarder à arriver. Marie-Christine Monnoyer, vous êtes titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Grégoire Delory, vous êtes doyen de la faculté libre des lettres et des sciences humaines à l'Université catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu présent. Alors, on va attaquer directement avec la bioéthique, finalement. En général, quand même, un sujet comme ça, on en laisse passer un ou deux avant pour avoir le temps de mûrir. Mais on change notre ordre. Donc, ces révisions de la bioéthique qui avancent, qui arrivent donc en seconde lecture à l'Assemblée nationale, après que le Sénat ait en grande partie retoqué le projet, on va en parler, dont texte portant révision des lois de bioéthique. Et on a un ministre, le ministre de la Santé, donc Olivier Véran, qui a annoncé qu'il voulait que ce texte soit voté avant la fin de l'année. Porteur de droits nouveaux, de nombreuses familles l'attendent. Alors, ça sera ma première question, c'est peut-être un peu une question piège. On va commencer avec vous, Vincent Grégoire Delory. Quand on a un ministre qui dit « demande forte de la société », le gouvernement doit suivre cette demande, de nombreuses familles l'attendent, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Mais merci d'abord pour la question piège, hein. c'est très 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 gentil.
C'est votre baptême du feu, alors.
C'est le baptême des questions pièges.
Il y en aura d'autres, rassurez-vous.
Ce que ça m'évoque, je dirais que ça m'évoque plusieurs choses. Vous parliez à l'instant de la liberté comme fil rouge de nos débats d'aujourd'hui. Il me semble que si on reprend un petit peu l'histoire récente de notre pays, je verrais comme borne milière plusieurs choses. Déjà, le fait que, c'est une bonne idée, je pense, de la part du gouvernement, il y a quelque temps, se sont déroulés ces états généraux de la bioéthique. États généraux qui ont été organisés ici à Toulouse, comme dans d'autres villes, en particulier chez nous, par l'espace de réflexion éthique d'Occitanie.
Dont vous êtes membre,
d'ailleurs. Dont je suis membre. Et nous avons organisé donc des débats. Nombreuses personnes sont venues à ce moment-là pour réfléchir, pour discuter. Parole libre, hein, vous parliez de liberté encore, hein, parole libre. Et ce qui ressortait de ces débats, de manière très surprenante, d'une part, on n'a pas tellement revu dans les textes finaux qui ont été édités après les états généraux de la bioéthique, on a retrouvé quand même des textes qui semblaient un peu décalés par rapport à ce que nous avons vécu sur le terrain. Et en outre, moi, ce qui me surprend là actuellement, c'est que toutes les questions dont nous nous posons les questions aujourd'hui, était loin d'être des questions qui semblaient admises.
Par exemple,
je pense à la PMA pour tous. C'était une question qui était largement débattue, qu'il n'y avait pas du tout de consensus ou de choses de ce type-là, ou tout simplement de choses qui sont arrivées dans la loi de bioéthique, là, qui sont actuellement dans les navettes, comme donc les embryons chimériques, dont il n'était quasiment pas question.
Donc embryon chimère, il faut rappeler,
mi-animal. Alors c'est ça, ce sont des embryons qui sont constitués à partir de morulas, hein, d'animaux, au sein desquels on place un tout petit peu de matériel génétique humain, de manière à faire en sorte que les animaux puissent développer des organes humains. Hein, typiquement pour faire pousser des embryons, des organes humains chez un cochon.
Ouais, donc voilà. Ça faisait pas partie des révisions.
Ça n'en faisait pas partie. C'était pas des sujets qui étaient abordés. C'était des sujets qui apparaissent dans le débat public de manière très récente. Et il me semble que nous allons un peu vite actuellement. C'est vrai que ce sont des lois qui sont votées très rapidement. On pourra y revenir. Hein.
Et alors à propos des révisions de la bioéthique, états généraux, puisque vous en parlez, que vous avez été à la manœuvre, On a entendu dire que, en tout cas, c'était un des prétextes du gouvernement, que ces états généraux auraient été noyautés, ou en tout cas, il y aurait une surreprésentation des chrétiens. On va dire les choses de manière courtoise. Est-ce que vous, c'est ce que vous avez constaté pour la participation qui a été la vôtre ou...
Alors,
moi, est-ce que c'est pas... les remontées qu'il y a eu du côté de cet espace de réflexion éthique d'Occitanie?
Il y avait en effet des chrétiens, bien sûr, mais ça qui paraît normal dans la mesure où, la réflexion bioéthique est une réflexion qui est très en avance au sein de l'Église, de manière générale, donc il y en avait. De là à dire qu'ils étaient surreprésentés, non, je ne crois pas. Il y avait, oui, c'est vrai, bien sûr, il y avait des personnes qui venaient parler... En tant que chrétien, bien évidemment, mais surreprésenté, je ne crois pas. Vraiment pas. C'est pas en tout cas ce que nous avons pu ressentir à ce moment-là.
Il y a eu donc une deuxième lecture au Sénat. La deuxième lecture au Sénat, ça a surpris plus d'un. Donc les sénateurs ont globalement rejeté le projet de loi. En tout cas, c'est comme ça que c'était présenté, on va dire, dans la presse. Entre autres parce que l'article phare, qui est l'article 1 qui ouvre la PMA donc, pour tous, hein, pas seulement donc, pour des couples de femmes ou des femmes seules, mais on va dire la nécessité qu'il y ait une cause d'infertilité ou des indications médicales donc, est supprimée. Donc rejet de cet article, ça a été emblématique. Il y a aussi donc, l'interdiction de la création d'embryons chimères dont vous venez de parler, ou le critère flou de détresse psychosociale permettant des IMG jusqu'à presque 9 mois la veille de la naissance. Alors quand on se plonge un peu plus, c'est plus contrasté que ça. Hein, il y a aussi des choses qui sont maintenues. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Marie-Christine Monnoyer, quand vous avez vu que le Sénat avait retoqué ce projet de loi? Est-ce que ça vous a surpris, The?
Alors ça ne m'a pas surpris parce que les sujets sont tellement touchy. Hein, qu'on va trouver forcément des personnes qui vont être plus sensibles à tel point qu'à tel autre. Moi, ce qui me paraît important, c'est que, au fond, comme on le disait il y a quelques instants, c'est bien que le Sénat dise non pour qu'on puisse continuer à discuter et que les choses ne soient pas prises dans la rapidité, l'urgence, et que ainsi cela donne davantage de temps. On donne du temps au temps. Mais ce qui me paraît aussi très important, c'est que ça nous donne l'occasion de réfléchir à l'ensemble du contexte dans lequel nous nous trouvons pour mieux comprendre pourquoi est-ce que telle position va être prise par les chrétiens, telle position va être prise par le Sénat, et en particulier, puisqu'on a beaucoup parlé de la PMA, moi j'ai vraiment beaucoup envie d'insister sur cette question de... on dit... La PMA, ce qui est le problème, et ce que disent encore les sénateurs, et ce que disent les évêques, c'est la privation de la référence paternelle. Alors, pratiquement, on est tous d'accord, parce que ceux qui ont été privés de leur père pour une raison ou pour une autre, en sont tous marqués, et donc on sait bien que c'est un problème. Mais je voudrais qu'en même temps, on se dise qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a 18% des enfants qui sont sans père au quotidien. Et donc, la privation de la présence paternelle, elle est vécue au quotidien par de très très nombreux enfants, de très nombreux jeunes. Et que cette privation de présence paternelle, eh bien, elle se conjugue avec, en général, une vie difficile parce qu'on a plus du tiers des familles monoparentales. 85% des familles monoparentales sont dirigées par une femme.
Mais est-ce que vous pouvez dire le lien que vous faites avec les révisions des lois de bioéthique? C'est-à-dire que vous laissez entendre qu'il faudrait prendre le problème de manière plus large, c'est ça?
Oui.
Hors antenne, vous disiez qu'il faut aussi poser la question de la natalité.
Je dis qu'il faut le prendre de façon large parce qu'au fond, là, on s'intéresse à ces enfants qui vont naître, par exemple, dans un couple de deux femmes. Et il y en aura. Et ils sont évidemment pas très nombreux. Et puis, les 18% d'enfants qui vivent sans père, eh bien, quand est-ce qu'on monte au créneau? Quand est-ce qu'on en parle? Quand est-ce qu'on voit les problèmes que vivent ces enfants qui sont sans père? Et alors que, d'une certaine façon, les enfants qui sont sans père, qui sont nés de deux femmes, enfin, au sens juridique du terme, ils vont être souvent très encadrés. Alors que les enfants des familles monoparentales, ils ne sont pas vraiment encadrés. Et en plus, ils sont pauvres. Vous voyez? Alors, je trouve qu'il y a un lien fort.
Daniel Cabanis, vous êtes arrivé, bienvenue à vous. Ma question pour vous, Olivier Véran, donc ministre de la Santé, a été auditionné par la commission spéciale du Sénat, c'était il y a quelque temps, c'était début février, et quand les sénateurs lui ont dit que peut-être la France allait avoir des problèmes de disponibilité de gamètes, hommes et femmes, compte tenu de la levée de l'anonymat des donneurs, qui normalement a été maintenu par les sénateurs, Olivier Véran a dit « Nous sommes à flux tendu, mais je ne crois pas que la nouvelle loi réduira les stocks disponibles. » On parle beaucoup de marchandisation du vivant. Est-ce que ça vous paraît excessif comme expression, ou est-ce que c'est une crainte que vous avez ?
Alors, pour l'instant, dans un pays comme le nôtre, on n'en est pas là, puisque le don de gamètes, ou d'ovocytes d'ailleurs, est nécessairement gratuit. Bon, la question de l'anonymat, c'est autre chose. Mais normalement, il n'y a pas d'enjeu d'argent. Donc, ce n'est pas une véritable marchandisation, si on veut angliciser. Mais...
Seulement, excusez-moi, je vous permets de vous couper juste pour préciser ma question, mais on laisse entendre aujourd'hui que justement, ce lever d'anonymat fera que demain, il y aura beaucoup moins de donneurs et qu'on sera bien obligé d'avoir recours à des achats,
alors,
entre guillemets.
Peut-être que oui, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas rêver, parce que le problème va se poser exactement de la même manière dans tous les pays développés, puisqu'un peu, c'est surtout là que la discussion se pose. Et alors, pour parler brutalement et de manière politiquement absolument pas correcte, je ne suis pas sûre qu'on soit prêt, même en les payant, à prendre des gamètes africains ou indiens ou chinois. Donc, il faut... Enfin, c'est pas correct de le dire, je le sais. Mais enfin, l'expérience montre quand même que c'est comme ça que ça se passe. Donc... On tourne en fait un peu en rond, et on sera peut-être obligé de repenser toute la question autrement et de manière beaucoup plus large.
C'est-à-dire...
Et là, je rejoins un peu ce que disait Madame Monnoyer, parce que en fait, il y a des enfants qui ne correspondent pas aux standards défendus par les évêques et pas mal d'églises, pas toutes, mais pas mal. Et qui sont effectivement très aimés, très choyés, qui ont une enfance parfaitement équilibrée, adorée par des grands-parents, heureux de voir chacun leur fille heureuse avec des enfants. Donc, je pense qu'il faut se garder de trop dogmatiser.
Oui, Vincent Grégoire-Delory, sur ce sujet. Donc, on entend quand même ce que laisse entendre Daniel Cabanis dernière. Hein, elle dit, pour parler plus clairement, que des enfants, comme le dit d'ailleurs Olivier Véran, il a une expression, aucune étude n'a montré que le développement d'un enfant est altéré dans le cadre d'un couple homoparental ou monoparental. Ce qui compte, c'est l'altérité. Alors, vous n'êtes pas obligé de rebondir sur ce sujet, mais c'était un peu ce qu'il y avait derrière.
Je mettrai des nuances, quelques petites nuances par rapport à la question de la marchandisation, dans la mesure où je crois qu'il faut peut-être séparer deux choses. Il y a d'un côté... ce qui est rendu possible par les biotechnologies, les sciences contemporaines. Donc il y a un certain nombre de possibles nouveaux. Donc la modification du génome en particulier, ça a valu à Madame Charpentier, par exemple, le prix Nobel de chimie il y a assez peu de temps, ce fameux ciseau moléculaire qui permet de changer le génome.
Arrêtez-vous dessus peut-être, le fameux CRISPR-Cas9.
Ce fameux CRISPR-Cas9 qui permet donc de modifier le génome à l'envi, de l'artificialiser de manière assez simple. Hein. Et donc effectivement, il y a des techniques désormais qui nous permettent de rentrer...
Mais c'est pas dans le projet de loi de révision.
Alors, là où je veux en venir, c'est que dans le projet de loi de révision bioéthique, il y a, à mon avis, deux choses. Il y a, d'un côté, la réflexion que l'on peut avoir tout à fait légitime de l'impact des technosciences sur le vivant. Que nous amènent comme possible les technosciences. Et là, effectivement, chaque jour ou presque, des nouveautés nous permettent désormais de modifier le vivant, de développer des gamètes à partir de cellules, de cellules somatiques, enfin, de changer vraiment le statut des cellules, de les modifier, de les travailler en profondeur. Donc ça, c'est quelque chose que la science nous permet de développer désormais et qui est une chose qui doit être réfléchie tranquillement. Il faut du temps, il faut une temporalité, je pense, pour réfléchir à ces questions-là, qui, évidemment, impactent très profondément le lien que nous avons au vivant, et en particulier au corps humain. Hein. Est-ce que le corps humain est un corps en pièces détachées? Est-ce que le corps humain pourra un jour être vendu en pièces détachées, petit morceau d'ADN par petit morceau d'ADN? Ce qui est déjà prévu par les lois européennes, hein, les lois de 98, hein, il y a des lois qui prévoient qu'on peut donc faire de l'ADN un objet. Donc, les biotechnologies, les biothérapies fonctionnent sur de l'ADN, pourquoi pas humain, qui est ensuite devenu, qui a été acheté, vendu pour à des fins donc, de fabriquer des médicaments. Donc, ce sont des choses qui existent d'une certaine manière déjà un petit peu. Mais moi, je mettrai quand même une nuance avec la deuxième chose qui me semble importante. C'est plus l'impact tellement des technosciences sur le vivant, mais c'est tout simplement, je dirais de manière purement logique, les effets immédiats qui sont liés au changement de paradigme dès lors que le mariage pour tous est passé. Et ça, je crois que c'est aussi simple que ça. Dès lors que le fameux bonum prolis, hein, dans les enfants, qui était vraiment le socle du mariage, hein, tel qu'on pouvait l'imaginer jusqu'à peu, a été remplacé, cette fameuse finalité des enfants a été remplacée par la liberté. Liberté, finalement, de se marier avec qui l'on veut, d'aimer qui l'on veut. Alors à ce moment-là, finalement, on a équiparé, eh bien, couple homosexuel et couple hétérosexuel. Donc il convient désormais pour le législateur, je suppose, je parle sous votre contrôle, mesdames, eh bien, de certaines façons, eh bien, de faire en sorte que les deux types de mariage puissent avoir accès au même type, finalement, de possibilités. Et en particulier, effectivement, du coup, la PMA n'est pas qu'un lieu ou de modification éventuellement.
Mais ça, on a compris, Vincent Gordolori, quelque part. Tout le monde a compris que c'était la conséquence en partie du mariage pour tous.
Oui, mais cette conséquence, on ne prend pas non plus le temps. C'est-à-dire que cette conséquence, on ne pourra pas l'éviter. Ce que je veux dire, c'est que nous allons commencer par la PMA, et puis ensuite, on va arriver vers la GPA, puisqu'on s'occupe pour l'instant des couples homosexuels féminins, mais ensuite, il y aura bien les couples homosexuels masculins. Et donc, petit à petit, je pense que la question qui se pose de nos jours est de savoir si oui ou non, on va équiparer les choses, et est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte que les deux mariages soient totalement égaux ou pas. Et je pense qu'actuellement, je dirais que les jeux sont faits. Je pense que les jeux sont faits. On peut réfléchir. C'est pour ça qu'il y a deux temporalités. La temporalité de la bioéthique qui devrait prendre plus de temps que nous le faisons actuellement. Et la deuxième temporalité qui est plus juridique, qui est très rapide, trop rapide. Et d'une certaine façon, on ne demande plus vraiment notre avis désormais. Je crois que les jeux sont faits.
Je citerai juste Franck Meyer pour compléter, donc porte-parole des mères pour l'enfance. Lui, son point de vue, je le dis parce qu'un certain nombre d'auditeurs ont été sensibles à la fameuse mobilisation du collectif Marchons-enfants, qui était le 31 janvier dernier. Il en faisait partie. Il laissait entendre que deux femmes pourront désormais donc reconnaître l'enfant devant notaire, celle qui a accouché et sa compagne. On crée ainsi une filiation fictive en indiquant qu'un enfant peut naître de deux femmes par la simple volonté. On fait d'une volonté un droit. Or, il ne doit pas y avoir de droit à l'enfant. C'est d'une certaine manière aussi un peu la position des évêques. C'est pour ça que je me permettais de la citer en pied. On va faire une première pause et puis on va retrouver pour aborder d'autres sujets d'actualité.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église en ce vendredi matin, émission d'actualité. Autour du plateau, Daniel Cabanis, professeur émérite d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole, Marie-Christine Monnoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Vincent Grégoire Delory, doyen de la faculté libre des lettres et des sciences humaines, toujours de cette Université catholique de Toulouse. On s'est dit qu'on allait donc s'arrêter sur l'affaire Navalny. Alexandre Navalny, cet opposant politique que l'on présente comme l'opposant politique numéro un de Vladimir Poutine, et qui donc aurait été empoisonné. C'était donc le 20 août dernier. Il est tombé dans le coma alors qu'il était dans l'avion. Avion, pour être précis, bon, peu importe le vol, reliant Tomsk à Moscou. L'avion, ça a été dérouté et s'est posé en urgence. Et depuis, la nouvelle a fait le tour du monde. Pas mal de choses à voir sur ce sujet. Il me semble que vous aviez fait une chronique dans le cadre de la matinale, Daniel Cabanis. Peut-être comment vous pourriez un peu nous résumer l'affaire ?
Alors, il y a en fait plusieurs étapes dans cette affaire. Le système russe tel qu'il s'est développé sous l'influence de Vladimir Poutine est devenu de plus en plus autoritaire, ce qui n'étonne pas tant les Russes que ça, puisqu'ils n'ont, tous ceux qui sont vivants maintenant, n'ont pratiquement connu que ça. Les très vieux, c'est les souvenirs de la belle époque, entre guillemets, du régime Coco, et puis les tout jeune, ben c'est parce que ça a très vite dérivé vers ça. Donc, ils n'ont sans doute pas du tout les mêmes réflexes qu'on peut avoir en Occident par rapport à la liberté individuelle, un contenu, un sens de la démocratie qui nous paraît à nous évident et qui pour eux ne l'est pas. Alors ça, c'est pour le décor général. Une des conséquences, c'est que la place de l'opposition est extrêmement réduite parce que elle n'est pas interdite. On peut s'opposer. Il y a des élections. Mais bonjour les dégâts lorsqu'on a l'outrecuidance de vouloir utiliser ce droit, ou en tout cas de l'utiliser d'une manière telle qu'on représente quelque chose. Pour Poutine, c'est magnifique d'avoir un opposant qui arrive à 1,8% des voix.
On dit même qu'aujourd'hui, il va lui manquer cet opposant politique presque, parce qu'au moins, ça faisait un ennemi quelque part.
Ben oui, d'une part, ça faisait un ennemi. Et puis, tant que ce n'était pas trop dangereux, c'était génial. Ça permettait de triompher très, très facilement et de montrer comment on était sage, raisonnable, et que la Russie avait besoin de lui et éprouvait même le plus grand bonheur avec des manifestations orchestrées, habitude qu'on a gardée dans tous les pays dictatoriaux, de quelque bord qu'il soit, il faut bien le préciser. Alors, Navalny est un peu différent en ce sens qu'il a été d'une très grande détermination à plusieurs reprises. Il a subi un certain nombre de procès.
Oui, j'avoue que je ne sais pas par quoi commencer parce que j'ai trois pages là-dessus. Donc
dans lesquelles le droit, au sens où nous l'entendrions ici, a été quand même furieusement malmené. Et puis, finalement, bon, il est victime, je passe vite, hein, il est victime de cette tentative d'empoisonnement, bien entendu niée par le Kremlin, qui, très curieusement, et ça rejoint cette idée qu'avoir un opposant, parfois ça sert, ne reconnaît pas qu'il a été empoisonné, mais accepte qu'il soit soigné à l'étranger. Alors ça, c'est quand même un aveu spectaculaire.
Alors, oui et non, parce qu'il a été condamné par la justice aussi le 2 février à 3 ans et demi de prison par le tribunal donc de Moscou, parce qu'il s'est rendu coupable d'avoir violé son contrôle judiciaire, parce qu'il est allé en Allemagne.
Oui, mais on l'a laissé partir. On pouvait très bien l'en empêcher. Ça ne posait aucun problème.
Mais il y a des fois, on se croirait dans un film presque, hein, quand on voit les déclarations du porte-parole de Moscou.
Totalement. Alors, on l'a pas fait partir, mais en tout cas, on l'a laissé. Admettons qu'on l'a laissé. On l'a laissé partir. Ce qui laisserait entendre que soit Poutine espérait que le poison administré étant supposé ne pas laisser de traces, n'en aurait pas laissé et qu'il serait blanc comme au jour de sa naissance. Et que, d'autre part, récupérer cet opposant, après tout, ce serait pas mal. On l'a laissé se soigner, ce qui prouve que nous sommes ouverts, démocratiques, etc., etc. Et puis, en même temps, il lui fait peur parce que, contrairement à ce qu'on avait dit, imaginez sans doute au Kremlin, les manifestations en faveur de Navalny se sont multipliées avec quand même une participation réellement très importante, au moins dans les grandes villes. Et c'est peut-être là que le bât blesse, parce qu'on ne sait pas du tout sauf à être sur place.
Ce que les compagnons pensent.
Ce que les compagnons pensent, et même les petites villes. Ça reste un phénomène très urbain, comme l'essentiel d'ailleurs de la vie politique, en tout cas ce qui se traduit à l'extérieur. L'essentiel de la vie politique en Russie. Alors,
On va peut-être faire circuler la parole Daniel Cabanis. J'apporte juste un élément. Donc le site d'investigation Bellingcat, je ne sais pas si on prononce comme ça, donc a publié un rapport d'enquête sur l'empoisonnement d'Alexei Navalny en collaboration avec des journalistes de CNN, Der Spiegel et The Insider, et donc qui tendrait à prouver qu'il a été empoisonné par les services spatiaux et même à l'occasion, donc services spéciaux russes. Et même à l'occasion donc de cette enquête médiatique, il y a une vidéo, semble-t-il, qui a circulé d'Alexei Navalny qui aurait piégé justement l'agent du FSB et qui serait parvenu à lui faire avouer à son insu qu'une tentative d'assassinat avait eu lieu contre lui. Qu'est-ce que ça vous évoque, Marie-Christine Monnoyer ?
Moi d'abord, ça m'évoque ce que vous avez dit tout à l'heure, on se croirait dans un film. Effectivement, on se croirait dans un film, c'est presque trop drôle, cette vidéo qui circule et qui fait qu'en fait, on voit bien que... Ce que, au-delà de ça, ce que je trouve d'important, c'est tout à l'heure ce que vous avez dit sur la question de l'état de droit. Parce qu'au fond, ce qu'a essayé de faire M. Poutine, et ce qu'a réussi à faire M. Poutine lorsqu'il a pris le pouvoir, c'est que la situation était difficile, il a rétabli une certaine organisation, mais surtout, il n'a pas souhaité faire en sorte que l'État, la Russie d'aujourd'hui, soit dotée d'institutions fortes, soit dotée d'un véritable domaine judiciaire. C'est-à-dire qu'au fond...
Il n'y a pas de séparation des pouvoirs.
Ah non, il n'y a pas du tout de séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de volonté. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est dans un État qui se veut démocratique, on annonce qu'on est d'accord avec le fait qu'il y ait une opposition, mais surtout, en fait, on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire sur le plan juridique en organisant le pays avec des institutions qui se tiennent. Alors, tout à l'heure, Daniel, vous disiez, au fond, les Russes d'aujourd'hui n'ont jamais connu autre chose, mais si on remonte dans l'histoire, parce que quand on s'intéresse à l'histoire de la Russie, c'est absolument extraordinaire.
C'est une longue tradition meurtrière.
C'est une longue tradition. Quand on s'assassine de père en fils, et en particulier quand on est tsar, et en fait, jamais on ne connaît une véritable liberté démocratique ou une organisation avec un pouvoir fort qui ne soit pas complètement un pouvoir autoritaire. Donc le pauvre Navalny, qui dit un jour oui, un jour non, un jour blanc, un jour noir, c'est un personnage un peu compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est intéressant pour nous, c'est que des gens qui n'apprécient pas fondamentalement Navalny profitent de la situation Navalny et de l'aberration d'envoyer ce monsieur en prison pendant 3 ans et demi parce qu'il était à l'hôpital et qu'il ne pouvait pas aller devant dire qu'il était malade, disent « ça suffit ». Il faudrait peut-être qu'un jour, notre pays s'organise autrement. Et dans beaucoup de documents auxquels nous, quand moi je ne parle pas russe, on peut avoir accès, c'est ça qui transparaît. Et donc ça veut dire que pour l'instant, M. Navalny n'est pas le chef d'une opposition, il est le rassembleur d'un mécontentement général. Et ça, peut-être que c'est...
Général, ça reste à prouver, mais disons qu'en tout cas, significatif.
Significatif. Mmh. Et donc ça veut dire que quelque part, ça, il va falloir s'en occuper.
On peut dire qu'Alexandre Navalny aussi s'était présenté à la mairie de Moscou, c'était en 2013, et qu'il avait quand même remporté 30% des voix. Son adversaire en avait 52, et lui avait dit qu'il avait été floué et que le score était de 35%. C'est pas si mal que ça, quand même. Vincent Grégoire Delory, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je voulais quand même citer c'est une citation tirée d'un livre d'Hélène Carrère-Dancos à propos de la Russie. J'ai trouvé dans une tribune, Hélène Carrère-Dancos, donc je pense que beaucoup de monde connaissent quand même, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Le malheur russe, et elle écrit dedans, il n'est de génération qui n'ait assisté pétrifiée à l'éternelle liaison entre meurtre et politique en Russie.
Oui, c'est vrai que si on regarde l'histoire de la Russie, moi j'ai l'impression que quand je parle, enfin, quand je réfléchis un petit peu à la question russe, j'ai l'impression d'être devant un monde que j'ignore complètement d'une certaine façon. Ce pays gigantesque, je sais pas, mais il faut quand même pas oublier qu'au XVIIIe siècle, ça allait jusqu'au Canada quasiment, c'est de l'Alaska à la Pologne, ce pays absolument gigantesque, ce pays très vertical, très verticalisé, ce pays qui finalement, moi je me rappelle très très bien de ce 25 décembre 1991, quand Gorbatchev a dit que c'était fini. Voilà, en quelques minutes, je crois que ça a duré quelques minutes à la télévision, dire c'est, ça y est, c'est fini, le drapeau rouge s'en allait. Et je me rappelle très bien aussi que du 25 décembre 91, je crois, jusqu'au 31 décembre 99, la chute de Yeltsin, ça a été ensuite une sorte de moment de chaos, on va dire, dans l'ancienne Union soviétique. Et puis de notre côté, on les regardait un petit peu comme un État qui s'effondrait. Et d'une certaine façon, le choc Est-Ouest était presque remporté par l'Ouest. C'était formidable. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, est-ce que l'État de droit, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que si j'étais dans la peau d'un Russe, est-ce que je chercherais l'État de droit ou est-ce que je chercherais la reconnaissance internationale de mon État? Je sais pas. Je me pose la question de certaines choses. Si j'étais russe, parce qu'en fait, voilà, j'ai pas d'avis particulier là-dessus, mais est-ce que je chercherais vraiment un État bien construit, comme, voilà, État de droit un petit peu à la française, avec des séparations des pouvoirs, ou est-ce que finalement je chercherais à retrouver un petit peu cette puissance perdue qui est en train de remonter?
Cette question. L'histoire de Vladimir Poutine.
Manifestement,
en faveur de ce type de point de vue.
Manifestement, d'après ce que j'ai compris, il est quand même encore beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a quand même une assise derrière lui. C'est quand même l'affaire ukrainienne. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps qui redorent un petit peu le blason de la Russie. Que cherche-t-il donc finalement? Que cherche-t-il? Qu'est-ce qui est bon de mettre en avant pour la Russie actuelle? Et j'ai l'impression qu'ils sont quand même que la Russie marque des points sur le plan géopolitique. Je pense ces derniers temps avec la guerre en Syrie, avec le soutien.
L'Arménie aussi, on peut dire.
Il y a quand même la Russie avance des pions vers la Chine, vers l'Inde. Enfin, c'est énorme ce qui se passe actuellement. Et voilà, c'est la question que j'aimerais vous poser d'une certaine façon, parce que moi, est-ce l'État de droit ou la puissance du pays, quoi, ce qu'on en fait.
Moi, j'ai une autre question aussi, c'est que est-ce qu'on peut parler un petit peu plus d'Alexei Navalny, puisque c'est aussi un opposant politique si on creuse ses déclarations qui, en fait, feraient frémir ceux qui, aujourd'hui, considèrent qu'il est un héros. J'ai trouvé une citation, c'est Radio Écho de Moscou. Jamais je ne soutiendrai la position selon laquelle en Russie le nationalisme est une chose terrible qu'il faut interdire. En France en ce moment, le Front National connaît une période de poussée frénétique de sa popularité. Vous parlez d'une horreur, Alain Delon soutient Marine Le Pen. On dit que c'est quelqu'un qui est assez nationaliste, qu'il a fait campagne contre la corruption, mais aussi contre l'immigration, Daniel Cabanis.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut bien se garder de l'idéaliser en tant que personne, en tant que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, rassembleur ou point de polarisation de l'opposition à Poutine. Il joue sans doute un rôle utile dans la mesure où peut-être, ce n'est pas certain, mais il pourrait entraîner une réflexion, peut-être une modification institutionnelle. Mais le bonhomme n'est pas du tout séduisant, comme la majorité des opposants à Poutine.
C'est-à-dire que même les opposants sont nationalistes en fait en Russie.
La plupart d'entre eux sont nationalistes, et d'ailleurs Poutine l'a bien compris, il fait passer à peu près n'importe quoi sur le thème de la grandeur retrouvée de la Russie. Ouais, c'est Russia great again, c'est exactement le même type de le même type de discours, avec les mêmes risques, les mêmes exacerbations.
Mais quand c'est étonnant quand même, Daniel Kamelis, pardon de vous couper, mais c'est vrai que ça, on l'entend pas, en fait. Il faut aller le chercher quand même, ses positions nationalistes et ses déclarations sur Jean-Marie Le Pen. Hein. Il dit aussi, il y a des processus analogues en cours dans toute l'Europe, alors allons-nous boycotter les croissants français ou bien dire carrément que les Français ont le droit de faire ça et pas les Russes? On a l'impression d'avoir la moitié de l'actu quand même quand on regarde rapidement la presse.
Mais hein. Tout à fait, mais je pense qu'on en est responsable, parce que Poutine a suscité, je pense, au début un certain espoir. Voilà, un homme fort qui va remonter la Russie dans le bon sens. Mmh. Et puis à côté de ça, on s'est beaucoup gargarisé en Occident, monsieur le doyen, là au fond rappelé, par ce bonheur, notre libéralisme, notre modèle.
Exactement.
Merveilleux,
oui.
Parfait,
on
etc. On a gagné.
Oui.
Hein. Et en fait, ça a exaspéré non seulement la classe politique, mais le russe ordinaire a été furieux de
humilié,
ça.
Humilié.
Très, très humilié. Mmh. Et quelqu'un qui n'a plus bonne presse, que personnellement j'aimais pas beaucoup, mais comme Fillon, avait très bien compris ça. Et lui voulait renouer une relation plus normale avec la Russie.
Alors on va laisser vous étouffer, et puis on va laisser Marie-Christine Monnoyer nous dire ce qu'elle pense de tout ça.
Ah
petit chat dans la gorge.
Et oh, alors, dernière pièce au débat, on laisse, enfin, d'aucuns, et en l'occurrence, c'est Moscou qui dit ça, hein, qu'il serait soutenu donc, par des puissances étrangères, en l'occurrence par les États-Unis. C'est un homme aussi qui a fait ses études à l'université de Yale, donc aux États-Unis, qui a été poussé aussi par des grandes figures russes. Dans cette candidature, il a suivi un programme qui s'appelle Yale World Fellow par le joueur d'échecs Garry Kasparov et autres personnalités. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie-Christine Monnoyer, cet Alexei Navalny?
Ah, si vous voulez, il y a certainement au fond deux grandes catégories de personnes et donc une certaine confrontation dans cette Russie. Ceux qui ont des contacts fréquents avec l'étranger et donc qui vont soit régulièrement, soit qui ont accès à des textes, à des journaux, etc., sont quelque part certainement dans une position qui est de soutien à Navalny, si on a enfin quelqu'un qui pourrait porter une autre organisation du pays. Mais d'un autre côté, on comprend bien que ce désir de grandeur qui a quand même toujours caractérisé la Russie soit suffisamment fort pour que ceux qui se méfient de ceux qui vont à l'étranger, de ceux qui lisent des choses qui viennent de l'étranger, se gardent bien d'être des soutiens à un homme qui, à certains moments, est capable de dire le contraire de ce qu'il a dit auparavant. Donc, au fond, on retrouve cette... Navalny, il est soutenu aujourd'hui par une certaine intelligentsia et il ne va pas être soutenu par le grand peuple qui applaudissait des deux mains M. Poutine quand il envahissait l'Ukraine. Hein. Donc forcément, ça n'ira pas très loin. Mais il n'empêche que c'est une situation qui a un certain intérêt et qui va... Parce que l'intelligentsia, elle grandit aussi. Les contacts internationaux, ils existent de plus en plus. Les gens qui lisent Internet, ils sont de plus en plus nombreux. Et il est difficile d'imaginer qu'on peut continuer à considérer que tout vient d'en haut et qu'il n'y a pas d'opposition véritablement démocratique, même au Parlement. 10% des gens, c'est rien. Il faut pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. Il faut pouvoir dire qu'on change quelque chose.
Ça plaide au moins pour la liberté de la presse. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut retenir de vos interventions. On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver pour parler donc du projet de loi confortant les principes de la République. On a entendu beaucoup parler, donc qui a été donc voté en première lecture à l'Assemblée nationale le 16 février dernier.
Oh,
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission Actualité du mois. Autour du plateau, pour ceux qui nous rejoindraient, Daniel Cabanis, professeur émérite d'histoire du droit à l'Université Toulousain Capitale, Marie-Christine Monnoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, et Vincent Grégoire Delory, doyen de la faculté libre des lettres et des sciences humaines de cette même université. Donc, dernière actualité sur laquelle on va s'arrêter ce matin, c'est donc ce projet de loi confortant les principes de la République, dont on a entendu beaucoup parler. Premier vote à l'Assemblée nationale, donc c'était le 16 février dernier. Ça a secoué même au sein de la majorité. On en avait parlé le mois dernier, on en reparle. J'aimerais peut-être qu'on en parle sous un autre angle. Autour de cette expression qui a été celle du ministre de l'Intérieur et donc ministre des Cultes, la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu. Ça n'est pas sans poser de questions peut-être pour, dans une radio chrétienne. Je rebondirai en citant Isabelle de Golemin, qui est donc rédactrice en chef au journal La Croix, qui dans une tribune, j'ai trouvé étonnamment engagée, citait la déclaration de Barmen. C'est une déclaration donc, je vous donnerai les oui, pardon, de Dietrich Bonhoeffer et de Karl Barth, disant la chose suivante: nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle l'État devrait et pourrait, dépassant cela les compétences de sa mission particulière, prétendre devenir l'ordre unique et total de toute la vie humaine et remplir ainsi jusqu'à la vocation même de l'Église. Et elle citait ça au début de sa tribune. Allez, Vincent Grégoire Delory, qu'est-ce que ça vous inspire cette Non, vous passez
si,
la
si,
balle.
Si, non,
quelqu'un
non,
la rattrape.
Non.
Pas moi en tout cas.
Moi, ce que ça m'inspire, c'est quand vous parlez loi de la République, loi de Dieu, cette question de la laïcité, qui est une question certainement évidemment complexe dans l'histoire de notre pays, laïcité d'inclusion, d'exclusion, laïcité de combat, enfin, le mot laos, c'est quand même le peuple, hein, c'est laïcos qui appartient au peuple. Ce que ça m'inspire, c'est que je pense qu'on n'est pas à l'aise, notre État français n'est pas du tout à l'aise avec ces questions-là, avec cette sécularisation progressive des religions, et sécularisation progressive qui a peut-être fonctionné depuis longtemps avec le christianisme, mais qui fonctionnera peut-être pas de la même manière avec l'islam, pour des raisons, je crois, évidemment, tout simplement historiques, pour des raisons aussi de structure même des religions. Est-ce que le long processus de sécularisation que nous avons vécu depuis plusieurs siècles en France, qui a été plus ou moins accepté par les catholiques, tout en conservant quand même, en tant que catholique, évidemment, notre conscience morale, on en a parlé tout à l'heure par rapport aux lois de bioéthique, est-ce qu'on va pouvoir mettre dans le même moule, à marche forcée, une religion comme la religion musulmane actuellement? J'en doute fort. Je pense que ça, c'est pareil, c'est une question de temporalité. On a ghettoisé une partie de la population française, en particulier d'origine musulmane. On a fait en sorte qu'il y ait une sorte d'islam d'abord souterrain qui existe. Et petit à petit, maintenant, on nous parle d'un islam de France, d'islam en France. On nous parle effectivement de la formation des imams. Tout cela est tout à fait intéressant. On nous parle d'une plus grande transparence, évidemment, dans les comptes des associations cultuelles, etc., etc. Mais la question que je me pose, c'est qu'effectivement, de nos jours encore, je ne sais pas si vous rendez compte le nombre de fois où on entend le mot république, des tenues républicaines, des avis républicains, tout doit être républicain actuellement. Et je me demande si la machine n'est pas en train de se gripper quelque part. Quand on met tellement en avant tout, pour quelques questions que ce soit, le mot république, est-ce que finalement on n'est pas en train de montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se gripper au sein même de la question laïque? C'est la question que je pose actuellement.
Alors, je voudrais reposer la question donc sur cette expression « la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu ». J'ai vu qu'il y avait un amendement aussi qui avait été porté lors de la discussion par un député LR qui s'est soldé par un échec, la création d'un délit pour le questionnement de la supériorité des lois de la République sur la loi de Dieu, passible de 5 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Daniel Cabanis, qu'est-ce que ça vous inspire si on reste sur cette expression ?
Je crois que c'est l'exemple parfait de la mauvaise expression, c'est-à-dire de l'expression qui se veut absolument polémique pour choquer, sans que celui qui l'a proférée, pour commencer, y ait réfléchi. Je crois que ça... Enfin, je ne suis pas dans sa tête.
Je ne suis pas à sa place, oui. Peut-être qu'il a réfléchi plus que vous ne le croyez.
Je ne suis pas à sa place. Alors, on dira n'a pas assez réfléchi, si vous préférez, pour respecter mieux la capacité de réflexion de nos ministres, qui parfois nous laissent peut-être dubitatifs. Enfin bon, polémique inutile. Non, je pense qu'en toute façon, cette expression, elle est, ça je crois que vous pouvez me le concéder, elle est brutale et elle est maladroite parce qu'elle fabrique une opposition frontale là où je crois qu'il n'y en a pas nécessairement. Parce que, rappelez-vous, là c'est dans les évangiles, et je retoquerai gentiment monsieur le doyen, je ne dirai pas seulement les catholiques, mais les chrétiens.
Les chrétiens, oui, oui, bien sûr.
Oui, parce que Daniel Gabani, c'est protestante, je devrais le dire à chaque fois, mais elle ne veut pas que je le dise.
Non, non.
Et ça lui permet de le dire, bref, voilà. C'est un peu compliqué.
Les chrétiens.
Les chrétiens, je serais mieux. Non, c'est le plaisir de la boutade. Non, je crois que c'est... On a tous les chrétiens partagent quand même rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement affrontement, mais qu'il peut y avoir deux ordres qui ne sont pas nécessairement concurrents, mais où on a une marge de manœuvre. Je reprends un exemple. Aujourd'hui, personne ne remet sérieusement en cause le fait qu'on puisse divorcer. Alors ça arrive encore dans des couples dont l'un des deux est très catholique, parce que ça concerne les catholiques. Les autres branches de la chrétienté acceptent le divorce. Un des deux est extrêmement catholique, l'autre veut divorcer, il le lui refuse. Et on sait très bien qu'au bout d'un certain temps, ce refus, quelles qu'en soient les causes, ne sera plus respecté. Mais c'est pas un problème. Vous êtes catholique, vous voulez pas divorcer, l'autre divorce, vous êtes en situation de séparation de biens et de corps, donc vous ne pouvez pas vous remarier, point barre. L'autre n'y croyait pas ou n'y croyait plus, peu importe, eh ben lui, il a repris sa liberté en fonction de ses convictions. La République permet cela, ça ne veut pas dire qu'elle est contre les lois de Dieu, mais qu'elle a défini un espace qui est un peu différent, et puis c'est possible, point barre.
Mais cette loi sur les séparatistes ne concerne pas que les chrétiens.
Non, je sais bien, mais ce que je voulais dire, c'est que...
J'ai compris, mais je vous invite du coup à aller jusqu'au bout de votre réflexion en englobant l'islam.
Alors, je rebondis sur ce qu'a dit monsieur le doyen, je crois qu'effectivement, et là encore, on se trouve dans une situation peut-être de précipitation. La religion musulmane, elle présente mille et une facettes. Jusqu'à il y a quelques années, j'aurais dit, je crois, sincèrement, par rapport à une situation de mettre de nouvelles définitions sur la place de l'islam, mais c'est pas un problème, parce que l'immense majorité des musulmans que je connaissais étaient des professeurs amis, des étudiants amis avec lesquels je travaillais dans différents pays dans le cadre des collaborations auxquelles j'ai eu la chance de participer.
Mais on dit qu'il n'y a pas de séparation quand même entre le religieux et le politique dans l'islam.
Oui, mais en même temps, on avait des gens d'une extrême modération, jamais n'ont tenu des propos qui étaient vraiment insupportables. On pouvait ne pas être d'accord, mais ça, c'est pas gênant.
Ça, c'est ceux que vous rencontriez, Daniel Kamenis.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gens que je voyais me permettaient d'avoir une vision optimiste par rapport aux grincements qui existaient par-ci, par-là. Or, depuis quelques années, j'ai fait de solides cabrioles en arrière, bien malgré moi, parce que effectivement, la population dans notre pays et dans un certain nombre de pays européens qui est concernée n'est plus du tout la même. C'est une population qui majoritairement est en difficulté, a du mal à s'intégrer, en partie par sa faute, mais aussi à cause de la nôtre. Donc, c'est, je pense, en partie artificiellement, fabriquer une identité qui implique pas de compromis. Nous sommes ça, c'est un bloc, et on ne discute pas.
Alors, mais donc, il faut bien légiférer, Daniel Kamenis.
Oui, il faut...
Excusez-moi, je vous presse un peu, mais c'est...
Non, il faut légiférer, mais il faut le faire avec intelligence. Par exemple, lorsqu'on dit contrôler les sources de financement, évident, pas d'action de l'étranger, sans contrôle, c'est de bon sens. Que les imams, c'est-à-dire que des enseignants, puisque tout est mélangé, aient une formation qui est reconnue, donc ça veut dire vérifier en clair, ça me paraît... également de bon sens. Bah, ce qui me gêne et qui peut peut-être vous étonner, c'est que la faute, elle est peut-être un petit peu de notre côté. On a beaucoup hurlé sur ces mosquées financées, nanana. Or, en fait, les religions traditionnelles de notre pays. Je prends le christianisme en général, dans une certaine mesure, au moins en Alsace-Moselle, les juifs étaient concernés aussi. On est, si j'ose dire, des héritiers. Alors, on a des lieux de culte que nous ne finançons pas complètement. L'État en assure une...
Donc il aurait fallu quoi, Daniel Camélis?
Eh bien, il aurait...
Quand je donnais la parole un peu à Marc-Christine Monnoyer, il aurait fallu quoi, les aider à financer leur lieu de culte, c'est ça?
Oui, et puis déjà en mettre à disposition. On croule sous les salles inoccupées. Donc on aurait été beaucoup plus intelligent. Et à ce moment-là, on peut avoir un cahier des charges de comportement et les choses se passent mieux ou en tout cas moins mal. Et là, je pense qu'on a... rater le coche.
Marie-Christine Monnoyer, votre sentiment toujours autour de cette question.
J'ai un sentiment extrêmement proche de celui qui vient d'être exprimé par Daniel Cabanis. Pour moi, qui en plus suis née au Maroc et qui ai donc vécu un certain temps dans un pays de religion musulmane, comment est-ce que je peux expliquer, moi chrétienne, que si je suis chrétienne, je peux aller dans une église qui a été bâtie depuis longtemps ou qui est entretenue par la République? Disons-le. Et puis, si je suis musulmane, j'ai droit à une cave au fond, à côté d'un parking. C'est pas possible, quoi. Donc, cette différence qui a été faite, elle est extrêmement lourde et forcément, elle entraîne des tas de choses qui sont compliquées. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a cette... Parce qu'au fond, on mélange, et là c'est l'économiste qui parle, on mélange les problématiques économiques et les problématiques religieuses. Mmh, s'il est difficile quand on s'appelle Ahmed ou autre chose, d'avoir un poste de travail et qu'il y ait un plafond de verre extrêmement rapide, quelle que soit votre formation, forcément, on va finir par penser que c'est parce que je m'appelle Ahmed, que c'est parce que mes parents sont musulmans, etc. Et que du coup, j'ai pas droit à la liberté. Et donc,
mais quel est le rapport avec le sujet, si je peux me permettre?
Ça fait des extrémistes. Et on devient d'un musulman tranquille à un musulman extrémiste. Moi, j'ai vécu la même chose que Daniel. Pendant de très nombreuses années, j'ai eu des amis et des professeurs musulmans et je constate même avec le temps qu'ils deviennent beaucoup plus virulents qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans.
Il n'empêche que si vous prenez l'exemple du Maroc, des pays du Maghreb, vous avez une liberté, on va dire, religieuse au Maroc comme chrétienne qui est plus limitée qu'un musulman
dire, oui.
Ne l'a en France.
Absolument.
Ce que vient interroger aussi cette loi, c'est justement cette fameuse charte de la laïcité à l'adresse des musulmans, bref, en tout cas, qui voudrait, on va dire, couler dans le marbre la reconnaissance, entre autres, de la liberté de conscience, la liberté de changement de religion, l'égalité homme-femme, etc.
Non, mais dans notre pays à nous, il n'est pas possible d'imaginer que... parce qu'on est musulman, on a trois femmes, et que quand on est chrétien, on n'en a qu'une. Si vous voulez, ça ne marche pas. Et donc, on dise aux gens que dans le texte de loi qui dit quand on est polygame, eh bien, on ne peut pas rester sur le sol français parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Franchement, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Donc, il y a des éléments dans cette loi qui sont intéressants, mais il est vrai aussi que c'est la conséquence d'un oubli de la part de la République française de cette composante musulmane que pour beaucoup on a fait venir.
Tout à fait, après la guerre, c'est nous qui les avons fait venir.
Le mot de la fin, Vincent Grégoire Delory.
Je dirais simplement que quand on parle de l'articulation de la loi de la République et de la loi de Dieu, je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que la question est mal posée. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a une supériorité ou une infériorité, il s'agit de savoir comment l'articuler. Et on a parlé, c'était le fil rouge d'aujourd'hui, de ce matin, de liberté, on a beaucoup parlé de liberté, devise de la République, liberté, égalité, fraternité, mais on oublie la fraternité. Je pense qu'on devrait revenir sur ce que dit le pape actuel, dans Fratelli Tutti, mais qu'on mette le mot fraternité au début de la devise, non pas liberté, et je pense que là déjà cette articulation se fera beaucoup mieux.
Eh ben, merci beaucoup à chacun d'être venu au micro de Vivante Église pour cette émission d'actualité. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.